France Culture, grand reportage, Aurélie Kiefer.
Dans la petite pêche, en fait, on travaille avec des réseaux en circuit court. Et du coup, on arrive à valoriser des espèces qu'on ne peut même pas mettre en vente en cri, en fait.
Ce sont vraiment des entreprises artisanales, mais très, très, très indépendantes, qui s'aperçoivent que lorsqu'on met en commun ces particularismes liés à leur individualisme, on arrive à faire quelque chose de pas mal.
Je crois qu'on est la première région de France à avoir aussi bien géré la crise dans nos produits de la mer. On n'a pas eu de poissons de jeter. Et c'est grâce à cette interpro, franchement. Et c'est pour ça que ça a beaucoup de sens.
Les incertitudes s'accumulent pour la pêche artisanale. Les bateaux ont repris la mer après le premier confinement, mais le secteur est ébranlé par la crise sanitaire. Il guette aussi l'issue des interminables négociations sur le Brexit, redoutant les conséquences d'une restriction d'accès aux eaux territoriales britanniques. Il craint enfin la concurrence de la pêche industrielle et son impact sur l'écosystème marin. Le 25 septembre, un bateau-usine de 81 mètres de long a été inauguré à Concarneau. En une journée, il peut pêcher 120 tonnes de maquereau. Les petits pêcheurs ne se sentent pas toujours de taille à lutter. Ils ne sont plus très nombreux, autour de 16 000 marins pêcheurs, et peinent à faire entendre leur voix au sein des instances censées défendre leurs intérêts. Ils représentent pourtant 80% des bateaux de pêche français. Alors, le monde de la pêche artisanale se retrousse les manches. Il comprend que pour survivre et défendre une pêche durable et écologique, il doit diversifier les débouchés, promouvoir ses produits, bref, s'organiser. Pêche artisanale, se structurer pour durer, c'est un reportage signé Anne Lorchouin. Dans Grand Reportage, nous accueillons aujourd'hui Claire Hugues, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conseillère régionale des Républicains en charge de la pêche dans la région Pays de la Loire. Également avec nous Alain Biseau, bonjour.
Bonjour.
Biologiste à l'IFREMER, Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Vous êtes aussi membre du comité d'avis du CIEM, le Conseil international pour l'exploration de la mer. Nous allons commencer par écouter ensemble le reportage d'Anne Lorchouin. Anne-Laure, face à ces menaces qui pèsent aujourd'hui sur la pêche artisanale, comment réagissent les professionnels que vous avez rencontrés ?
Alors, le monde de la pêche est notoirement très indépendant. Les pêcheurs, vous l'avez dit, sont de moins en moins nombreux. Le métier est difficile, ce qui ne laisse pas toujours le temps de s'associer, de participer à des réunions. Même chose d'ailleurs pour les autres métiers de la filière. Et pourtant, tout récemment, la région Pays de Loire, à laquelle on ne pense pas toujours d'abord comme une région de pêche, a tenté l'expérience de l'interprofession. C'est une première en France. Elle a créé donc l'association interprofessionnelle Loire-Océan Filière pêche, une pêche essentiellement artisanale qui fait vivre de nombreux autres acteurs régionaux, mareyeurs à marée, logistique, poissonniers, transformateurs, distributeurs. Faire se parler tout ce monde pour promouvoir la pêche locale, c'est l'objectif de cette structure. D'autres structures existent aussi de forme plus ou moins associative. Je suis donc partie à la rencontre de tous ces acteurs, d'abord en Pays de Loire, en Vendée, au Sable d'Olonne.
Et pour commencer, vous nous faites rencontrer Wilfried, un jeune pêcheur de retour de mer. Il vient de poser ses filets. C'est le moment des grandes marées et ce n'est pas la saison idéale pour les filayeurs comme nous.
Bonjour. Vous êtes Wilfried ?
C'est ça, c'est moi.
Eh bien, enchanté.
Oui.
Bon. Retour plutôt que prévu ?
Quand il y a des grandes marées, il y a du courant, donc ça nous couche nos filets et on n'est pas très efficace quand il y a du courant. Sorti là, on y va dès qu'on peut, parce qu'on ne sait pas si on peut y aller le lendemain ou pas. Tant qu'on peut, on y va.
Donc dans un bateau que vous avez racheté ?
Oui, j'ai racheté à mon beau-père. Il partait en retraite et puis ça s'est fait comme ça à la reprise. C'est un 12 mètres. Moi, j'ai commencé sur un grand bateau au chalut. J'ai voulu changer de métier pour faire à la journée, puis ça s'est fait comme ça et puis ça m'a plu, donc du coup je suis resté.
Donc faire à la journée, ça permet d'avoir quand même une famille
Ouais, c'est ça. On est là tous les jours. C'est différent, c'est vraiment deux navigations différentes. Moi, je sais que j'ai des collègues qui naviguent plus à la quinzaine et qui préfèrent ça. Ils avaient déjà essayé la journée pour eux, c'était pas pour eux.
Ouais.
De rentrer tous les jours, de mettre le réveil tous les jours à 2h30 le matin, ça préfère être une quinzaine à la mer non-stop.
Ouais.
Et après, d'être à terre vraiment à la maison. Mais moi, je vais pas dire que j'aime pas, j'aime bien. Hein. Mais c'est deux navigations différentes.
Ouais. Juste un petit mot sur votre parcours. Vous avez fait un lycée maritime ou comment vous êtes arrivé jusque-là ?
Nous, on appelle ça vulgairement, on va dire ça. L'école des pêches au sable. Commencé par une année de CAP, puis après BEP. Après, je suis repassé des examens un peu plus tard. Et puis, après, directement à la mer.
Est-ce que vous gagnez correctement votre vie ? Comment ça se passe financièrement, en fait ?
Bon, on va dire comme tous les marins, on n'en gagne jamais assez, de toute façon. Comme tout le monde. Oui, non, c'est compliqué. Parce que faut toujours se batailler. Déjà, de pêcher, déjà, c'est un premier temps. C'est là que c'est notre salaire. Après, le prix, hormis vraiment le Covid, hein, ouais. On a quand même depuis quelques années à la créer des prix moyens corrects. On a quand même un grand cheptel de mareilleurs et aussi le mariage internet qui a fait du bien aussi sur le prix moyen. En règle générale, on a des jolis prix moyens. C'est vrai que là-dessus, on n'a pas trop à se plaindre. Bon, ben là, c'est vraiment le Covid hein, qui ouais, c'est particulier. C'est pas les années qu'ont connu nos anciens. Ils pêchaient beaucoup plus. Mais bon, ils vendaient plus mal dans le temps. Donc c'est vraiment. Maintenant, on va dire que le poisson, il est vraiment primé.
Vous pêchez moins, mais vous vendez mieux?
Que dans le temps, on pêche moins, ça c'est sûr. Ouais. On vend mieux, oui. C'est vrai que là-dessus, ça n'a rien à voir. Mais il y a beaucoup moins en quantité aussi. Donc. Ouais, c'est compliqué quand même.
L'un des maillons essentiels de la filière pêche en Pays de Loire, c'est la criée. Celle des Sables d'Olonne est la 10e de France en volume, mais 4e en valeur grâce à son poisson phare, la sole. C'est à la criée qu'est débarquée la pêche de la nuit, là qu'elle s'achète, qu'elle est préparée avant d'être expédiée. Et nous y retrouvons vers 5h du matin, Sylvain Ravon, directeur de la Halle à Marée.
Au moment le plus important, c'est-à-dire que là on est en plein milieu de la vente. Si on s'approche, vous allez voir les petites machines mobiles qu'on appelle un mobile de vente.
Donc là, en présence des pêcheurs et des acheteurs.
Alors les pêcheurs, là vous en avez quelques-uns qui finissent de ramener leurs crevettes. Tout ce qui est vivant est débarqué au dernier moment. Et pour le reste, donc vous avez tous les mareilleurs, les acheteurs en fait, qui sont autour des bacs, qui sont en train de se vendre. Donc on a un opérateur qu'on appelle crieur, parce qu'avant la vente était à la voie. Qui est sur la machine et du coup qui annonce les lots. Et dès qu'on entend ce petit signal, le petit signal sonore, c'est que le lot a été attribué en fait. Okay. Le principe, c'est une vente aux enchères.
Donc chaque acheteur a son boîtier attribué?
Exactement, tout à fait. Chaque acheteur a son boîtier attribué et en plus, vous avez ici les acheteurs à distance. Donc en fait, la vente est connectée à Internet et les acheteurs enregistrés ont la possibilité de pouvoir acheter à distance.
Donc là, si vous me dites un peu ce qu'on voit sur cet écran, il y a...
Alors, du coup, vous avez le numéro du lot, donc c'est l'identifiant pour la traçabilité. Hein. Vous avez l'espèce, donc là, on voit que c'est bien du rouge ébarbé. La taille 31, qualité A, qui est frais et entier, c'est les codes de présentation. Le poids, donc vous avez ici donc, le prix.
Donc là, il est à la hausse.
Là, il est à la hausse. Les quantités de ce produit qui restent à vendre, sur le bateau ou sur le total de la vente, donc là c'était les derniers lots, 2,9 kg de ce qui reste. On a ici, vous voyez, du maigre. On a une période où il y a de l'encornée, de la sèche, ouais. De la sole, début de la période de sole. Crevette rose, on est en plein dans la période aussi. Et sinon, il y a des espèces qu'on retrouve toute l'année, comme le merlu, qui est, elle, la première espèce en volume, en tonnage. On a un port qui est très diversifié dans toutes ses composantes. Et chez les acheteurs, c'est pareil. Vous avez des gros mareilleurs, qu'on appelle des sociétés importantes, mais vous avez aussi des grandes surfaces, vous avez des plus petits mareilleurs, vous avez des poissonniers, des gens qui ont des marchés, des détaillants. Et du coup, on a en fait à peu près 90 acheteurs présents, et physiquement, et 80 à distance.
Alors tout ça a été vendu?
Ouais, tout ça a été vendu.
Donc là ça se termine.
Là, ouais, la partie, la fourmilière est en train de se refermer. Si on suit le chemin du poisson, une fois que la vente est terminée, les mareilleurs vont aller travailler le poisson dans leur case. Et une fois que le travail là est fait, vous avez déjà les transporteurs qui attendent. Les premiers départs sont à 7h30 en fait.
Ça c'est quoi? C'est de la raie?
Exactement, ah, c'est ouais. De la raie pelée déjà. Aile de raie pelée.
Bonjour, je vous embête.
Julien.
Vous êtes, comme on dit, mareilleur grossiste, c'est
mareilleur grossiste dans les crustacés. Okay. Et un petit peu de poisson de la criée des sables.
Alors, comment ça se passe vos journées, puis quel est un peu votre travail?
Donc, nos journées commencent vers 3h30 le matin. On réceptionne la marchandise, on trie la marchandise. Ensuite, je prends mes commandes de restaurateurs, quand il y en a, ouais, et de poissonniers sur un répondeur ou par mail. Et on prépare les commandes. On livre les gens avec nos camions ou par transport frigorifique.
Et alors depuis, vous faites ça depuis plusieurs années, j'imagine. Est-ce que vous avez vu la ressource évoluer et comment les arrivées de poissons évoluer aussi et de quelle façon?
Alors moi, personnellement, je fais ça depuis 23 ans maintenant. Il y a des choses qui ont changé, pas forcément dans le mauvais sens. Il y a des choses qui ont changé dans le mauvais sens, mais d'autres non. Donc depuis que la pression de pêche a quand même nettement diminué par le nombre de bateaux, il y a des choses qui ont diminué, soit, mais c'est pas le cas de tous les produits.
Bon, bah, bon courage, bonne merci journée. Beaucoup.
S'adapter aux crises, c'est l'un des objectifs de l'interprofession. Et en termes de crise, 2020 n'y aura pas été de main morte. José Jounot est pêcheur retraité, président du comité régional des pêches maritimes. Les hauts et les bas de la profession, il a eu le temps de les analyser.
Les grandes crises qu'on a connues dans la pêche depuis 1960, pour rester soft, ça a toujours été suite à des augmentations du cours du brut ou une mévente du produit, soit par surproduction, soit par manque de production, soit par importation, etc. On a toujours subi plutôt qu'agi, quoi. Et je pense que les 10 dernières années sont très très riches d'enseignements, parce que la pêche est quand même un des derniers secteurs primaires avec l'agriculture, où on a su s'adapter aussi rapidement à un monde en perpétuelle évolution, quoi. Je prends l'exemple de l'environnement. Il y a de ça 10 ans, il ne fallait pas parler aux pêcheurs de l'environnement, etc. L'environnement, c'était un truc bobo, écolo, etc. Ils se sont adaptés vraiment à une vitesse phénoménale. Bien sûr en rouspétant, parce que c'est quand même notre marque de fabrique, mais en comprenant qu'en gérant, c'était une conscience collective qu'il fallait développer pour aller à la protection des quotas, pour la gestion des pêches, pour les stocks halieutiques qui étaient... Et il valait mieux produire bien que trop, de manière à trouver des nouveaux marchés et de faire une commercialisation optimale.
Donc, sur quel constat l'interprofession a décidé justement de s'interprofessionnaliser? Qu'est-ce qui a poussé déjà et qu'est-ce qui a fait qu'il y avait besoin d'une structuration un petit peu plus forte?
Alors, on a tous des compétences dans nos différents domaines, c'est-à-dire les comités, les OP, les centres de gestion, les COP d'avitaillement, etc. Mais on n'a jamais su s'associer vraiment au sein d'un mouvement commun. Aujourd'hui, il ne reste que 15 000 pêcheurs artisans en France. Hein. J'insiste bien sur le mot artisan. On n'a jamais su vraiment discuter avec tout ce qui est mariage, avec le transport, avec la filière dans son ensemble. Et on s'est aperçu que c'est des gens qui ont exactement les mêmes problèmes que nous. Pourquoi? Parce que leur cœur de métier, c'est de l'approvisionnement dans les à la marée ou ailleurs. Hein. Tout dépend du circuit de commercialisation. Que ces gens, la filière amont, ne connaissaient pas du tout nos problèmes. Et la filière aval était exactement dans la même dynamique. Donc, ça a commencé à discuter vraiment, mais au départ, il y a de ça 3 ans, oui, 4 ans maintenant, sur des thématiques communes. Comment ça se fait que les quotas, c'est quoi les quotas? Pourquoi on n'a pas de langoustine à telle époque? Et puis nous, on disait, pourquoi on ne vend pas notre poisson à tel moment? Pourquoi tel produit ne s'écoule pas? On a appris à se connaître progressivement. Et l'idée est née de dire, si on pouvait se... Au travers de nos différentes structures, l'objectif, c'était surtout pas de rajouter une couche à... mais d'avoir quelque chose de light, d'agile, c'est très tendance de dire ça, en dehors de toute administration, en dehors de tout syndicat, etc. Uniquement des gens animés par une même et bonne volonté pour dire, quand il y a un problème, est-ce qu'on ne peut pas se rencontrer rapidement de manière à essayer soit d'anticiper, soit de pallier à ce problème. Et surtout communiquer. En Pays de Loire, on a 370 navires, il y a 370 manières de voir, une fois qu'on a dit ça. Et dans le monde du mariage, de la distribution... C'est exactement la même chose. Ce sont vraiment des entreprises artisanales, mais très 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 indépendantes, qui s'aperçoivent que lorsqu'on met en commun ces particularismes liés à leur individualisme, on arrive à faire quelque chose de pas mal.
Donc alors, la pêche artisanale en Pays de Loire, c'est la grosse majorité, c'est combien à peu près
C'est 100%. Cet artisanat s'est transformé en une espèce d'artisanat de très haut niveau. Alors... Se développer, ça ne veut pas dire non plus se développer n'importe comment. On a connu, on ne va pas retomber dans les travers du passé. Ça veut dire de se développer dans des nouvelles manières de voir, de nouvelles recherches de marché. Ça, c'est pour ça que l'interprofession prend tout son sens, parce qu'on a des spécialistes de la commercialisation. Mais l'ambition qu'on a, c'est qu'il y a très peu de gens qui connaissent le poisson français, fin de compte. 70% de ce qu'on produit s'en va à l'extérieur. Par contre, on importe 80%. De notre production, au travers du saumon, du lieu noir, qui sont tous sauf des espèces endémiques. Quelque part, on voudrait faire savoir aux gens qu'il y a de l'excellent poisson, d'excellents produits sauvages, qui est pêché avec des techniques tout à fait respectables et respectueuses de l'environnement, qui sont produites partout sur le littoral. La pêche française, comme l'agriculture, je pense, ont toujours été des secteurs qui, à la base, avaient cette fierté de dire on nourrit nos populations. C'est peut-être décevant, mais ça veut toujours dire quelque chose.
Selon l'interprofession, le confinement a causé une perte de 5 millions d'euros pour les producteurs, 7 millions d'euros pour l'ensemble de la filière, un impact financier qui aurait pu être beaucoup plus important si Loire-Océan Filière Pêche n'avait pas existé. Monique Le Beaupin dirige une société de maraîage qui achète, prépare et revend des produits de la mer à Nantes. Son activité dépend directement donc de celle des pêcheurs. Pionnière de la création de l'interprofession, elle en a vu rapidement les effets bénéfiques.
Pendant tout le premier confinement, on faisait une réunion par semaine. Et nous, en tant que marailleurs, on précisait un peu la tendance des demandes de nos clients. Et ça permettait aux bateaux de sortir en fonction des demandes. Comme ça, avec les arrêts temporaires des bateaux, avec les organisations de producteurs, la Corépem entre autres, le SMIDAP à la région, on a organisé, pour ne pas avoir trop de volume avant d'en créer, juste ce dont on avait besoin. On n'a pas eu de poissons de jeter, on a vraiment organisé les offres en fonction des besoins. Et je crois qu'on est la première région de France à avoir aussi bien géré la crise dans nos produits de la mer. Et c'est grâce à cette interpro, franchement. Et c'est pour ça que ça a beaucoup de sens.
Donc ça a permis de s'ajuster un petit peu.
Ah oui, complètement. Ouais. Et là, avec le deuxième confinement, on a repris le même travail, on est à travailler. Et vous voyez, ce matin, on était encore en réunion. Et ça a effectivement beaucoup de sens. Et connaître les problématiques de chacun, et ça permet justement dans la filière de pouvoir les régler à certains niveaux de la filière. C'est la filière.
Et alors, dans cette interpro, est-ce que vous discutez aussi avec la grande distribution? Ou est-ce qu'elle est vraiment à part? Est-ce qu'elle gère ces circuits?
Alors, on les a invités à venir. Pour l'instant, on ne les a pas vus avec nous travailler. Mais c'est aussi un maillon de... Nous, on voudrait les amener à racheter plutôt en produits régionaux. C'est très important. On a les transformateurs qui, eux, ont trouvé intéressant de venir nous rejoindre parce qu'ils ont aussi besoin de produits. Et on a certains transformateurs qui achètent exclusivement en gris de Loire.
Communiquer, promouvoir la pêche régionale, adapter la demande à la ressource, c'est le programme imaginé par la filière en Pays de Loire, sous l'impulsion également des élus de la région. Mais d'autres formes de structuration ont éclos qui promeuvent une action plus militante. L'association Pleine Mer est une association de ce type. Elle fédère bien au-delà des pêcheurs et milite pour, je cite, une transition durable de la pêche en faveur des hommes et des femmes qui la pratiquent, des citoyens et de l'environnement. À son actif notamment, une cartographie et une application des circuits courts de la pêche française. Charles Brenne, ancien pêcheur lui aussi, en est le fondateur et président. Les chantiers sur lesquels il travaille sont ambitieux. En premier lieu, celui des quotas de pêche. Ces fameux quotas institués par l'Union européenne et qui sont depuis leur création objet incessant de mécontentement.
On a dû, dans le passé, au niveau européen, fixer des limites parce qu'en fait, après-guerre, on a eu une dynamique industrielle un peu comme partout, et notamment dans la pêche, et on a poussé et financé la construction de bateaux en grand nombre et un peu démesuré, ce qui fait qu'on a eu, en face d'une ressource qui, par nature, est limitée. Les océans européens ne pourront pas donner plus que ce qu'ils nous donnent de poissons. On sait qu'il y a une limite biologique, et en fait, les Européens ont construit massivement, et donc on a ce qu'on appelle un effort de pêche, donc les capacités de capture, qui sont beaucoup plus grandes que ce que l'océan peut nous fournir durablement. Donc on a dû mettre ces taxes et quotas en place pour limiter, on va dire, les moyens de production existants. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec ces contraintes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de trucs, il n'y a pas que le quota, il y a les quotas, donc le quota c'est ce volume capturable, mais il y a aussi des licences ou des droits de pêche. C'est-à-dire qu'on a une licence qui nous permet, déjà la première, c'est d'avoir un bateau professionnel. Donc ces licences-là, elles sont contingentées, il n'y en a plus. Il faut donc racheter un bateau qui a déjà une licence pour pouvoir pêcher. On ne peut pas construire un bateau et demander au ministre, enfin c'est très compliqué et de plus en plus rare d'obtenir cette licence. Et après, pour différentes espèces, différentes zones, différentes techniques, et il y a plusieurs strates de décision, ça peut être le comité régional, ça peut être le comité national, ça peut être l'État. On va avoir le droit de pêcher le bar au-dessus du 48e parallèle, on va avoir droit de pêcher à la coquille Saint-Jacques en plongée. Il y a comme ça une multitude de droits. Donc c'est extrêmement compliqué, notamment pour les gens qui s'installent de pouvoir avoir accès à beaucoup de ses droits et de ses accès. Et ce qui est paradoxal, c'est que pour nous, pleine mer, et puis pour plein de gens qui réfléchissent à la pêche, on reste persuadé que l'équilibre, il est dans la polyvalence. Il est dans la mesure et la polyvalence. C'est-à-dire que nous, on parle souvent de pêcher moins, mais pêcher mieux, et pêcher moins et vendre mieux. Et on est dépendant d'un écosystème. Donc on va dire, sur les petits bateaux, ils ne peuvent pas aller pêcher à l'autre bout de la terre. Donc ils vont être dépendants d'une surface maritime qui est petite. Et qu'en fait, l'équilibre intuitif, et pour l'avoir vécu, c'est vrai, il est dans la polyvalence, c'est-à-dire la polyvalence des engins de pêche et des espèces pêchées. Et c'est hyper contraignant quand, par exemple, certaines espèces qui sont devant chez soi, on ne peut pas les pêcher parce que le quota a été donné. Je pense, par exemple, il y a un exemple, enfin, c'est dingue, c'est le maquereau, qui est un poisson en plus assez prolifique, il y a des quantités de maquereau assez dingues, il passe à peu près partout en France, et une immense majorité du quota est donnée à des pêcheurs industriels. Et par ailleurs, on refuse, ou du moins, on n'a pas les petits bateaux de certains endroits de France n'ont pas la possibilité de pêcher le maquereau toute l'année parce que le quota pour eux s'arrêtera parfois avant l'été, alors que c'est un poisson notamment qui se vend super bien l'été. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que pas mal de militants, à la fois, on va dire, pêche et à la fois écolo, ont milité pour faire évoluer la politique commune de la pêche, qui est l'équivalent de la PAC, mais pour la pêche, donc qui est un peu le grand chapeau de toutes nos décisions au niveau européen pour la pêche. Et en 2014, il y a un article, on a été des nombreux à se battre pour cet article, qui est l'article 17, et qui, normalement, propose aux États membres de donner ces droits, accès et quotas sur des critères sociaux, écologiques et économiques. En France, on n'a rien changé. Le système d'attribution n'a rien changé. Il est toujours aussi opaque. Il ne se fait pas forcément au vu et au-dessus de tout le monde. C'est clairement, il faut être dans les instances de l'organisation de producteurs ou du comité régional pour souvent avoir accès. C'est très compliqué. Alors qu'on pourrait essayer d'avoir un schéma un peu plus clair. Et puis, une politique sincère. Voilà, sincère en disant, nous, ce qu'on privilégie, c'est le plus grand nombre d'emplois. On regarde cette ressource limitée, un équilibre des territoires et une durabilité économique, environnementale et sociale. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Ce qu'il faut regarder, enfin, ce que l'État regarde, c'est les antériorités. C'est-à-dire, en gros, le volume que ce bateau-là a capturé de cette espèce dans souvent une ou deux années référence. Donc, c'est, en fait, c'est une course à l'échalote complètement folle. C'est-à-dire qu'en gros, la prime, c'est à celui qui a le plus pêché avant.
Malgré ce système qui rend l'installation difficile, ils sont quelques-uns et quelques-unes, d'ailleurs, non issus du milieu de la pêche, qui souhaitent pourtant évoluer dans le métier avec un regard un peu différent, plus écologique, plus soucieux de la ressource. C'est le cas notamment de Florence et Sandrine, pêcheuses et amies, adhérentes de l'association Pleine Mer, que je vais rencontrer en Charente-Maritime, dans le port de pêche de Royan, où sont amarrés leurs deux bateaux.
Comment il s'appelle ?
Il s'appelle Louis Thomère.
En fait, c'est les premières syllabes des prénoms de nos trois enfants, Lisa, Thomas et Merlin. Là-bas, c'est le parc.
Donc là où vous stockez.
Où on stocke nos filets. Voilà. Donc on a deux types de filets, en fait. De ce côté-là, on a des filets qu'on appelle tramail, avec trois toiles. Et de ce côté-ci, on a des filets une toile. Et en fonction des espèces qu'on va cibler, on va utiliser plutôt les uns ou plutôt les autres.
Les journées de pêche, ça dure combien de temps à peu près ?
C'est très aléatoire, en fait, ça va dépendre de ce qu'on va pêcher. Si on pêche peu, ça peut aller rapidement. Si on pêche plus, ça peut prendre du temps. Je peux toujours dire, comme je dis aux enfants, je vais toujours vous dire à quelle heure je vais partir, parce que ça, c'est un horaire fixe. Mais je ne pourrai jamais vous dire à quelle heure je vais rentrer, parce que ça, je ne le sais pas. Je suis devenue pêcheuse parce que mon mari est devenu lui-même pêcheur. Et il a fait un an tout seul à bord. C'était un rêve qu'il avait, il était routier avant, et c'était un rêve qu'il avait depuis toujours. Donc il a réalisé son rêve et au bout d'un an tout seul à bord, il n'y arrivait pas, c'était très compliqué. Et les matelots étant payés à la part, quand on ne pêche pas grand-chose, trouver un matelot c'est compliqué parce qu'on ne peut pas le payer. Donc la seule solution qu'on ait trouvée, hormis mettre la clé sous la porte, c'était que je monte à bord avec lui. Donc voilà, je suis devenue pêcheuse par amour pour suivre mon mari. C'est ça. Alors nous, on a un petit bateau qui fait 9 mètres par 3, donc vraiment un petit bateau. Et on pêche au filet toute l'année. On pêche aussi un peu au casier, les crevettes. Et puis, depuis cette année, on a eu la licence thon rouge qu'on pêche à la canne. Voilà, donc on essaie de se diversifier et de pouvoir en vivre normalement.
Alors, moi, c'est un petit peu le même contexte que Flo. Moi, c'est aussi par rapport à la rencontre avec le père de mes enfants, qui était marin-pêcheur, lui, par contre, depuis de nombreuses années. Moi, pas du tout, parce que je faisais des études de biologie, je m'intéressais pas du tout au monde de la pêche. Et en fait, pour soutenir aussi mon conjoint, j'ai passé mes diplômes en Espagne, j'ai embarqué avec lui, on a fait les casiers à poules, pour moi c'était un petit bateau aussi, casiers à poules, pelées lignes. L'hiver, j'avais demandé une licence de plongée sous-marine pour faire les oursins en apnée. Et j'ai commencé ma carrière donc il y a 11 ans en Méditerranée, mais du côté espagnol. Ensuite, on s'est installé pendant 6 ans en Bretagne Nord, en Côte d'Armor. On faisait les coquilles Saint-Jacques, les casiers à sèche et aussi les lignes. Donc, le père de mes enfants a eu un accident très grave. Moi, j'ai été blessée aussi. Et puis, le métier qu'on favorise, qu'on aime beaucoup faire ensemble, c'est les lignes. Donc, on s'est retrouvés ici à Royan et ça se passe très bien.
Alors, j'ai cru comprendre que vous travailliez avec une technique particulière japonaise, non ? C'est ça ?
Ah oui, alors ça, c'est pas du tout une technique de pêche. D'accord. La technique de pêche qu'on utilise, c'est la ligne, les hameçons. Donc, les poissons sont montés vivants un par un. Et en fait, moi, je les garde vivants à bord pour leur enlever donc toute l'adrénaline, le stress de la pêche. Je les laisse reposer dans un vivier avec de l'oxygène, etc. Il faut s'en occuper aussi pour les maintenir en vie d'une certaine façon, parce qu'ils sont montés aussi, ils ont de l'air dans la vessie natatoire. Bon, c'est... Et ensuite, quand ils sont très détendus, qu'ils ont donc évacué tout ce stress, en fait, c'est pour le bien-être animal et aussi rechercher une qualité supérieure de chair. Donc ensuite, il faut leur faire une mort cérébrale à l'aide d'un outil, donc un tegaki. Donc je suis allée au Japon pour apprendre toutes ces petites finesses. Le poisson est mort de façon cérébrale, mais physiologiquement, il a encore en vie, donc son cœur bat. On profite de ce laps de temps-là pour lui faire évacuer un maximum de sang. Donc en retirant beaucoup de sang, on va favoriser donc la qualité de la chair. Et la dernière observation, une des dernières opérations, c'est la démédulation. Donc on va lui passer une tige métallique dans la colonne vertébrale pour casser toutes les terminaisons nerveuses et de cette façon-là, stopper le message chimique de mort.
Ça, c'est mon matos d'assassin. Ça, c'est pour la mort cérébrale.
Ok. Et ça ?
Ça, c'est pour la démédulation. Donc, on va rentrer par là. Mm-hmm. Le poisson, il va avoir un mouvement très, très significatif. En fait, que tu es vraiment en train de taper dans les nerfs et tu vas sentir la tige qui casse toutes les... Ça fait comme des canules.
D'accord.
Et tu vas sentir crac, 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 crac. Et le poisson, il va avoir des...
Spasmes un peu.
Des spasmes. Et puis ensuite, voilà, c'est fini, il est mort. Mais il n'y aura pas le message chimique de mort dans la chair.
Et ça permet notamment une meilleure conservation.
La maturation, et c'est ce qui ça va permettre la conservation du poisson et son affinage, en fait, comme de la viande.
Donc ça fait des poissons meilleurs, a priori.
Bah, ça fait des poissons meilleurs et qui ont moins souffert et que vous pouvez déguster au bout de 5 jours, 10 jours, 15 jours, 20 jours. Ça demande du travail, ça demande de l'investissement. C'est pour ça aussi, travailler en famille, c'était cool pour ça, parce que moi, ils m'ont donné le temps d'apprendre et de faire des tests et d'être sûre de ma technique. Je suis partie au Japon, donc c'est vrai que ça prend du temps, il y a un résultat, mais c'est quand même pas mal de sacrifices à faire et puis aussi beaucoup de doutes. Et faire entrer ça aussi dans l'esprit des gens et sur un marché où ben forcément ça va être un prix supérieur et est-ce que vraiment ce marché, il faut le créer.
Alors en temps normal de non-confinement, est-ce que vous gagnez bien votre vie et combien est-ce que vous le dites assez facilement ou pas ?
Non, parce que c'est totalement aléatoire en fait, il n'y a pas de règles. Le mois dernier, j'ai gagné zéro. Okay. Et c'est zéro et on n'a pas d'aide là-dessus. Parce que là aussi, moi, ça me fait bondir d'entendre que les marins pêcheurs ont des aides dans tous les sens. On roule sur l'or, à croire les gens, on roule sur l'or. On a un métier qui est compliqué, il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de week-end, on sort tout le temps. Quand le temps et la météo parfois n'est pas terrible, on sort quand même, parfois on force un peu justement pour essayer d'avoir un revenu. Et quand il n'y a pas de pêche, ben, il n'y a pas de revenu, il y a zéro. Quand on travaille en famille aussi, c'est un avantage et, comme le disait Sandrine, un inconvénient. Mais ça, quand on gagne des mois corrects, les deux salaires tombent au pied du mât, donc du même mât. Donc ça fait un revenu correct pour le foyer. En revanche, quand on gagne zéro, comme le mois dernier, c'est zéro zéro pour toute la famille, quoi. Il y a quelques années de ça, on a eu un problème de moteur, on est resté 3 mois à quai. Et pendant 3 mois, on a gagné 0 euro. Voilà. Donc, et pas d'aide. Il n'y a pas de chômage, il n'y a rien du tout. Donc, on a eu heureusement un fonds de solidarité des collègues qui avaient vendu du poisson pour nous en crié, pour nous faire un petit revenu. Mais c'est sans eux, il n'y a rien. Rien, rien, rien. Donc, il faut que les gens le sachent aussi.
Vous avez un ballon au bout du quai, là. Un plus petit bateau là, qui est tout au bout du quai.
D'accord. Donc, vous avez un matelot à bord ?
Oui, un seul.
Autre membre de l'association Pleine Mer, Brendan Galvin, ligneur dans le Finistère, dans la mer d'Iroise plus précisément. En Bretagne, plus qu'en Charente-Maritime, les petits pêcheurs côtiers cohabitent avec les armements de pêche industriels. Mais pour Brendan, la petite pêche et les petits pêcheurs sont l'avenir, son petit bateau, donc, est amarré au port de Lanildut.
Quand il fait beau, il faut en profiter.
Vous pêchez tout l'hiver ou il y a un moment donné
on pêche tout l'hiver. Alors en fait, à cette saison, on travaille sur la seule espèce qui ne se reproduit pas dans cette région l'hiver, c'est le rouget, qui part au large l'été pour se reproduire.
C'est un choix de tout le temps cibler des espèces qui ne sont pas en période de reproduction. On arrive à le faire 12 mois de l'année.
Alors quand vous êtes arrivé dans la pêche, est-ce que vous aviez déjà une vision précise de comment vous vouliez pêcher avec une notion déjà de durabilité, voire d'écologie ?
Comme beaucoup de jeunes matelots, je suis parti travailler au large sur des gros navires. Je n'étais pas toujours d'accord avec ce qu'on faisait. Hein. En fait, on valorise beaucoup, beaucoup plus notre poisson. On a un prix moyen bien plus élevé. Et du coup, avec beaucoup moins de prise, donc en tirant beaucoup moins sur la mer, on arrive à générer plus d'emplois. Je crois que c'est ça la base. J'ai discuté il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui travaille sur un gros chalutier industriel hauturier. Et il défendait cette grande pêche industrielle en disant « oui, mais on fournit des emplois ». Et on est arrivé à la conclusion que pour fournir un emploi, une journée d'emploi, il devait pêcher 3,5 tonnes de maquereau par homme embarqué. Alors que nous, avec 3,5 tonnes de maquereau, vendus à 6,50 euros, moi je peux payer deux matelots plus moi-même des salaires très corrects pour un mois. Donc je pense que c'est ça qui fait que la petite pêche a un grand avenir, c'est qu'en tirant très peu sur la ressource, on arrive à créer de l'emploi et au final c'est ça dont le pays a besoin. Quand un navire usine pêche... je ne sais pas, 160 tonnes ou 120 tonnes dans sa nuit, pour fournir 33 emplois. C'est sûr, c'est 33 emplois, mais ces 120 tonnes, combien d'emplois on aurait pu fournir et pour sur quelle durée de temps, à combien de matelots français?
Donc c'est un peu l'idée du small is beautiful.
Exactement,
en économie, quoi.
Oui. Alors j'ai exercé la plupart des métiers. Hein. J'ai fait le chalut à bœuf, donc c'est-à-dire pélagique, où on faisait des coups de 60 tonnes par nuit. J'ai fait le chalutier à perche, donc c'est un peu comme le chalut électrique, mais sans les électrodes, mais avec beaucoup de chaînes pour remplacer les électrodes. J'ai fait la drague, le casier, le filet. J'ai fait tout sauf la Seine et la Boulinche.
Et aujourd'hui ?
Aujourd'hui, j'exerce mon métier la plupart de l'année à la ligne. Donc ligne de traîne, canne à pêche et palangre. C'est comme des longs fils à linge qu'on tend plus ou moins au fond, avec de nombreux hameçons à pâter dessus. Du coup, on touche une grande diversité d'espèces. Là, on a compté sur la marée de 3 jours qu'on a fait récemment. Il y avait eu 3 jours de beau temps de rang. On a fait 19 espèces différentes. Et toutes ont été valorisées. C'est ça qui est super. En fait, on travaille avec des réseaux en circuit court qui préparent des paniers pour les particuliers.
Alors, Poiscaille, par exemple.
Poiscaille, par exemple. Et on travaille beaucoup avec les restaurants aussi. Malheureusement, pas beaucoup en ce moment, mais en temps normal, on travaille énormément avec les restaurants. Et du coup, on arrive à valoriser des espèces qu'on ne peut même pas mettre en vente en criée, en fait. Par exemple, le chinchard, c'est quasi impossible de le vendre en criée. Certaines criées ne l'acceptent même pas, alors que Poiscaille nous donne 5 euros le kilo pour notre chinchard. Du coup, on va faire sur l'année, peut-être pas une trentaine d'espèces différentes, mais bien plus qu'une vingtaine. Et puis, c'est un peu notre force, parce que comme on est polyvalent, si une pêcherie ne marche pas, on peut passer sur une autre. Et même dans la petite pêche, on voit que... de plus en plus de navires font le choix d'être monométiers, voire même monoespèces. Peut-être, je pense que c'est rentable sur le court terme, mais je ne sais pas si c'est durable sur le long terme. Pour moi, c'est trop risqué.
La pêche industrielle et la petite pêche artisanale peuvent cohabiter. Brendan et de nombreux autres pêcheurs le pensent, mais sous certaines conditions, dont tout laisse à penser qu'elles ne sont pas toujours réunies au large des côtes françaises. Dernier exemple en date, l'inauguration, il y a quelques semaines, du Scombrus à Concarneau, un chalutier géant dont plusieurs ONG et associations écologistes estiment qu'il symbolise la mort de la petite pêche artisanale, principalement par accaparement des ressources qui seront ensuite vendues ailleurs qu'en France. Sur ce sujet-là, Pleine Mer travaille également Charles Brenne.
Donc le Scombrus, 25 septembre, baptême, en grande pompe. France pélagique, s'appelle l'armement. Mais il n'a de français que le nom, en fait. Les capitaux sont 100% hollandais. Donc en gros, il y a pas mal c'est historique aux Pays-Bas. Il y a pas mal de fonds d'investissement, de banques qui investissent dans la pêche comme s'ils investiraient dans autre chose. Et qui vont en fait capter, et c'est pas le cas qu'en France, ils le font aussi sur d'autres pays européens, capter l'ensemble des quotas en achetant des bateaux, en regroupant les quotas et en faisant des bateaux énormes, ultra efficaces sûrement économiquement, mais qui sont à mon sens une aberration, toujours avec cette limite biologique. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on veut à la fin? Est-ce qu'on veut qu'en Europe, alors ça sera peut-être écolo, peut-être labellisé, je n'en sais rien, peut-être que les marins seront super bien traités à bord, mais on aura 6 gros bateaux qui seront hyper efficaces et on aura des ports musées avec... comme c'est arrivé à Cannes il y a quelques années, l'Amérique il paye les pêcheurs pour qu'ils restent dans le port pour les photos de touristes.
Alors est-ce qu'il y a aussi une action à mener par rapport aux mangeurs et mangeuses, comme vous dites, c'est-à-dire que On sait qu'en France, par exemple, pas mal de poissons consommés ne vient pas de nos côtes, quand les poissons de nos côtes sont, eux, plutôt exportés. Là-dessus, qu'il faudrait une vraie campagne de communication, enfin, quel serait le moyen d'arranger les choses?
On va dire la première espèce consommée en France, c'est le saumon, et c'est du saumon d'élevage, principalement produit en Norvège, un petit peu en Écosse, un petit peu en Irlande, et pour les low cost, on va dire, au Chili, avec une catastrophe à la fois sociale et écologique incroyable. Donc ce saumon, en fait, il est nourri de farine et d'huile de poisson, de pêche industrielle, il est souvent traité, il est source de pollution sur les lieux de production. Souvent, moi je rappelle, c'est le même itinéraire technique que le cochon d'élevage, que certains boudent, et pourtant les moyens, notamment que la Norvège met, via son ambassade parisienne, des moyens de communication depuis des années, a réussi à mettre dans la tête des Françaises et des Français que le saumon était un truc hyper peu calorique, c'est bon pour la santé. Donc déjà, en fait, il faut se renseigner un petit peu. Donc en gros, les espèces très consommées en France, majoritairement consommées, saumon d'élevage, crevettes d'élevage, après le même principe, avec des catastrophes écologiques aussi en Asie du Sud-Est et en Amérique centrale et en Amérique latine. Et le cabillaud, qui est quasiment plus pêché en France, parce que, un, il a été très pêché, et puis deux, le réchauffement climatique a fait qu'il se décale plus vers le nord. Et donc, c'est plus des pêcheries industrielles, islandaises, hollandaises, anglaises, écossaises, mais toujours pas, on va dire, du poisson, notamment de la petite pêche française. Donc là, déjà, il y a une révolution à faire dans les têtes. Donc, il y a pas mal de communications qui sont faites. Là, je pense, en ce moment, il y a une communication qui est faite par l'association des ligneurs de Bretagne, et c'est quelque chose que d'autres assos écolos ont fait par le passé, c'est surtout en fait de diversifier ces poissons, de ne pas suivre systématiquement sa recette sur tel ou tel site internet à la mode ou telle émission culinaire un peu à la télé. Ils vont toujours nous servir les mêmes poissons, donc en fait non, il faut être curieux. Tous les poissons sont super bons. J'ai l'impression qu'on sait maintenant, pas de tomates en hiver, plein de choses. Sur la pêche, il y a une ignorance crasse de la part de la cuisine, de la gastronomie française, et qui pour moi pourrait être le contrepoids du marketing financier des grosses structures.
Pêche artisanale, se structurer pour durer, un reportage d'Anne Lorchouin avec Annie Brault à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Pour commenter et compléter ce reportage, nous sommes avec Alain Bizot, biologiste à l'IFREMER, et Claire Hugues, conseillère régionale des Pays de la Loire en charge de la pêche. Première question pour vous, Claire Hugues, comment les pêcheurs de votre région vivent-ils la crise sanitaire? Parce qu'on sait que le premier confinement avait mis le secteur à l'arrêt. Depuis, les bateaux ont repris la mer. Comment ça va aujourd'hui?
Aujourd'hui, on est dans une crise un petit peu différente de la dernière fois, moins contrainte en particulier par les exportations, mais néanmoins extrêmement contrainte par l'arrêt de la restauration en particulier, qui représente tout de même des grands débouchés, et donc toujours avec cette difficulté de pouvoir mettre en adéquation finalement la production des pêcheurs avec la demande des consommateurs, tenant compte du fait que la restauration aujourd'hui est à l'arrêt, quasiment à l'arrêt.
Et est-ce que les mesures d'aide pour soutenir la filière sont à la hauteur ?
Les mesures d'aide sont en train d'être mises en œuvre puisqu'elles dépendent de la mise en œuvre de mesures à l'échelle européenne. Donc chacun le sait, on est heureux de voir les fonds européens arriver sur notre territoire. Ils sont un plus, mais bien souvent ce sont des dossiers assez complexes et assez longs à mettre en œuvre. Donc c'est le travail qui est en cours aujourd'hui.
Alors, dans ce reportage, et ma question s'adresse peut-être à Monsieur Bizot, on parle donc de pêche artisanale. Chaque pêcheur m'a semblé avoir plus ou moins sa définition. Est-ce qu'il y existe une définition précise de ce qu'est un pêcheur artisan? Est-ce que l'IFREMER en a une?
Alors, c'est une très bonne question. L'IFREMER n'a pas de définition particulière. C'est souvent assimilé à des petits bateaux, ce qui est souvent le cas. Mais malgré tout, la dichotomie entre artisan et industriel vient plus du fait de la constitution de l'armement. Les bateaux industriels appartiennent à un armement. Les bateaux artisans, en général, le propriétaire est aussi le patron du bateau. et puis sur un système de rémunération. Les marins qui travaillent sur un bateau de type industriel ont une rémunération, un salaire fixe, ou en tout cas un salaire minimal, ce qui n'est pas du tout le cas dans la pêche artisanale, où la rémunération, le plus généralement, c'est de la rémunération à la part, c'est-à-dire que s'il y a de la pêche, on a un peu d'argent, un peu de salaire, s'il n'y a pas de pêche, il n'y a pas de salaire du tout. Et s'ajoute à ça, si vous voulez, aussi des catégories de navigation. Des bateaux qui peuvent aller plus au large sont plutôt des bateaux plus gros, sont plutôt des gros artisans ou des bateaux de pêche industrielle, et des bateaux qui sont dites en pêche côtière sont en général les plus petits bateaux. Donc il y a tout ça qui s'interconnecte, à la fois la taille, la structure de l'armement et les catégories de navigation.
Et comment tout ça est réparti sur les côtes françaises? On dit beaucoup que la majeure partie de la flotte, des bateaux, ce sont des petits bateaux de pêcheurs artisans.
Alors, effectivement, si on regarde la structure de la flotte française, on a à peu près 4000 navires en France hexagonale. Et sur ces 4000 navires, il y en a 80% qui font moins de 12 mètres. Donc, moins de 12 mètres, c'est évidemment tous des bateaux artisans. Ce sont pas forcément tous des bateaux de petite pêche, mais ce sont tous des bateaux artisans.
Claire Hugues, en tant qu'élue, est-ce que vous sentez le devoir de porter la parole de ces pêcheurs artisans qui ont plus de difficultés à défendre leurs intérêts que les grosses entreprises de pêche industrielle ?
Oui, alors évidemment, en tant qu'élue locale et d'une région où justement on a une pêche artisanale, je me sens bien évidemment investie de les aider à porter leur parole peut-être particulière, mais pas parce que ce sont des petits artisans, mais parce que ils défendent aussi et ils incarnent finalement des valeurs et des souhaits d'alimentation plus profonds. Ils sont très acteurs de l'alimentation locale. Ils sont très au cœur de toute l'évolution durable des pêches. Et c'est surtout ça qui nous sous-tend, c'est-à-dire oui, il y a la notion de petits artisans peut-être moins organisés, moins forts pour aller défendre leur cause, entre guillemets. Mais au-delà de ça, c'est que la pêche traditionnelle française, la pêche artisanale française peut nous permettre de porter des enjeux qui sont importants pour les Français et dont ils sont importants évidemment pour l'élu que je suis, autour de l'approvisionnement du consommé d'espèces locales, et puis aussi de l'adaptation de la pêche vis-à-vis d'enjeux environnementaux qui sont très forts.
Alors justement, quel est le travail de l'élu pour promouvoir par exemple le consommé local d'une pêche locale? On sait que en France on mange à 80% du poisson qui n'est pas pêché en France. Alors quel est le travail de l'élu pour dire ça?
Bien, je pense que déjà, pour pouvoir avancer sur cette thématique de consommer plus de poissons locaux, il y a bien évidemment un fort axe autour de la communication. Finalement, d'abord mieux participer à une meilleure information du consommateur sur ce qu'il consomme, parce qu'aujourd'hui, l'étiquetage pour un consommateur qui souhaite avoir cette démarche environnementale et sociale vertueuse, c'est compliqué quand on est chez le poissonnier de bien comprendre finalement telle ou telle espèce, est-ce qu'elle vient vraiment à côté de chez moi ou pas. Mieux informer le consommateur aussi sur la saisonnalité, mieux informer le consommateur aussi sur le fait que consommer des espèces locales, c'est pas obligatoirement dépenser plus, au contraire. Et puis, c'est aussi participer à une meilleure connaissance sur les bonnes pratiques de pêche et l'évolution très forte que la pêche a pu engager dans ses pratiques depuis longtemps. Donc ça, c'est une des facettes sur lesquelles les collectivités locales peuvent accompagner justement cet enjeu.
Alors, est-ce qu'il y a un travail à faire, Monsieur Bizot, notamment sur la politique des quotas? On en a parlé dans le reportage. Les quotas de pêche sont, semble-t-il, attribués. Les plus gros quotas sont attribués à ceux qui ont déjà le plus pêché, donc plutôt les navires industriels. Est-ce que justement, pour faire survivre et bien vivre cette pêche artisanale, il faudrait allouer les quotas selon d'autres critères, et notamment des critères de durabilité et d'emploi peut-être, d'emploi créé dans la pêche?
Alors c'est une très bonne question, mais je suis pas sûr que ça soit à nous, scientifiques de l'IFREMER, à y répondre. Je pense que c'est vraiment un choix politique. Nous, notre travail en tant que scientifiques, c'est de j'allais dire, c'est de déterminer la taille du gâteau qu'on peut manger. C'est-à-dire, on fait des diagnostics sur l'état des ressources, on fait des recommandations en fonction des objectifs de gestion qui sont aujourd'hui ceux de la politique commune des pêches, hein, qui sont d'essayer de maximiser durablement les captures des espèces exploitées. Après, une fois qu'on a déterminé le taille du gâteau, d'abord, c'est pas nous qui la fixons, cette taille. Nous, on fait des propositions, on donne des avis. Ce sont bien les politiques, les ministres, lors des conseils de pêche au niveau de l'Union européenne, qui décident de la taille du gâteau qui va être attribuée. Et puis après, la part de chacun. Alors là, du coup, c'est pas du tout une affaire de scientifique. C'est vraiment quelque chose qui a été décidé au moment de la création de l'Europe bleue, ce qu'on appelle la stabilité relative. Chaque pays membre a une part du gâteau en fonction des espèces. Et des zones. Donc ça, c'est la quota nationale, j'allais dire. Et puis après, s'ajoute la répartition au sein de chaque État membre entre les différents professionnels, entre les différentes organisations de producteurs, entre ceux qui sont dans une organisation de producteurs et ceux qui ne le sont pas. Et c'est vrai que jusqu'à présent, à la fois au niveau de la stabilité relative, c'est-à-dire des quotas nationaux, que les quotas qui sont, en tout cas la part allouée à chaque pêcheur, cette distribution, j'allais dire, elle est fondée, comme vous l'avez dit, comme c'est rappelé dans le reportage, sur les droits historiques. C'est-à-dire qu'on a pris une période de référence, on a regardé ce que chacun pêchait, et puis on considère que cette part, au moment de la période de référence, on la garde... peut-être pas pour l'éternité, mais enfin en tout cas pour un petit bout de temps. Et ça, effectivement, c'est un critère. Mais le choix, il appartient aux politiques. On peut très bien, effectivement, envisager de modifier cette répartition sur la base d'autres critères que les seuls droits historiques.
Mais ces quotas permettent réellement de préserver la ressource, sur le fond même de la question ?
Alors, les quotas, en fait, c'est les totaux admissibles de capture, donc ce qu'on appelle les TAC, qui sont, donc c'est la taille du gâteau, en fait, hein, et puis les quotas. C'est un système de gestion des pêches qui est très largement répandu au travers le monde. Alors, c'est pas le seul, hein. Il y a, dans le reportage, Charles Brenne a très bien expliqué qu'il y avait à la fois des droits d'accès, mais il y a aussi, donc, les droits à produire, qui sont les quotas. Il y a des quotas, il y a des réglementations sur la sélectivité des engins, donc sur les tailles des poissons que l'on capture. Alors après, ce qu'il faut regarder, c'est l'évolution de l'état des ressources depuis une vingtaine d'années. Alors après cette évolution, on constate, nous, à l'Ifremer, et c'est aussi quelque chose qu'on partage avec mes collègues européens, enfin en tout cas dans l'Atlantique Nord, c'est une très forte amélioration de l'état des ressources depuis une vingtaine d'années. Tout n'est pas encore parfait, hein, c'est sûr, mais les choses se sont améliorées. Alors est-ce qu'il faut mettre ça au crédit des seuls quotas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, le système fonctionne plutôt pas mal aujourd'hui. Alors, encore une fois, je ne parle pas de la répartition individuelle du quota, mais bien de la taille des captures qui sont réalisées au niveau européen.
Alain Bizot parlait de la taille du gâteau. Claire Hugues, je reviens donc vers vous pour évoquer un sujet d'actualité, à savoir le Brexit, avec ce divorce qui va donc très prochainement s'appliquer. Les pêcheurs redoutent une restriction d'accès aux eaux territoriales britanniques très poissonneuses. Ils ont peur d'avoir une zone de pêche réduite et donc là, ce gâteau, il serait sérieusement rétréci. Comment est-ce que vous êtes préparé au Brexit et à ce potentiel Brexit dur ?
C'est un sujet qui est très complexe et qui est finalement particulièrement complexe pour l'élu des Pays de la Loire que je suis, parce que les restrictions d'accès aux zones de pêche britanniques ne concernent pas les pêcheurs des Pays de la Loire directement. Sauf que, vous l'avez très bien exprimé, il va y avoir probablement une part du gâteau qui va être restreint dans les zones de pêche britanniques. Et ce qu'on craint et qui s'avère très probable, c'est un report partiel de pêche sur le golfe de Gascogne, qui là viendrait à impacter très fortement les pêcheurs ligériens, donc les pêcheurs de mon territoire. Mais là, c'est très compliqué puisque finalement, on se retrouve à gérer une multitude d'hypothèses en fonction de ce qui va se passer, Brexit dur, moins dur, accès ou non, avec quelles conditions sur les eaux britanniques et quel report va se faire de la part des pêcheurs qui ne pourront pas ou qui pourront difficilement accéder aux eaux britanniques et qui entameraient un report finalement de pêche sur le golfe de Gascogne, créant des tensions particulières sur ce territoire qui concerne plus directement les pêcheurs ligériens.
Est-ce qu'il y a les mêmes inquiétudes du côté d'Ifremer ? Est-ce qu'on travaille là-dessus aussi ?
Avec un risque de surexploitation, de surpêche encore plus qu'avant ?
Ce que Madame Hugues a très bien expliqué, c'est qu'effectivement, le risque principal, c'est le report des bateaux qui sont très dépendants des eaux britanniques et si jamais ils ne peuvent plus y aller, y accéder, donc ils vont se reporter sur des zones du style le golfe de Gascogne ou la partie française de la Manche. Et donc là, ça va créer effectivement des déséquilibres. Hein. Ce sont des secteurs qui sont déjà bien exploités. Ça va rajouter de l'exploitation. Il y a effectivement un risque de surexploitation ou en tout cas un risque, encore une fois, le gâteau, il n'est pas extensible. Donc si on met plus de pêcheurs sur le même gâteau, eh bien, les parts de chaque pêcheur sera plus petite. Donc ça, c'est un vrai problème. Et donc c'est très difficile pour l'instant. Nous, on est prêts à quantifier plein de scénarios. On a commencé à travailler, bien sûr, avec la direction des pêches depuis un petit moment. Mais les scénarios sont multiples. Il y a beaucoup d'incertitudes, non seulement sur l'accès aux eaux britanniques, mais aussi sur la part que les Britanniques vont vouloir réclamer dans cette fameuse répartition des morceaux de gâteau. Si les Britanniques restent avec une part assez proche de ce qu'ils avaient jusqu'à présent, ça posera pas énormément de problèmes pour la répartition des autres pays. Mais si elle le réclame, comme elle le fait à grand cri, une part beaucoup plus importante, ça veut dire que la part qui restera pour les autres pays sera beaucoup inférieure et ça va vraiment poser beaucoup de problèmes.
Alors on le disait, la répartition des ressources, elle est politique. Madame Hugues, la nomination d'un ministre de la mer en France, c'est une première. Ça vous semble un signe positif? Ça veut dire que est-ce que la France peut a décidé d'avoir une politique de la pêche et de ne pas tout dédier à l'Europe peut-être?
Cette nomination d'Annick Girardin est vraiment une excellente nouvelle pour les sujets maritimes, pour la pêche en particulier, oui. Mais au-delà de ça, je pense que là où j'y vois un côté positif, c'est que sur la mer, il se passe beaucoup de choses. La mer, c'est un ensemble d'acteurs, c'est un ensemble d'usages. Voilà, vous citez la pêche, mais sur la mer, il y a aussi la plaisance, il y a aussi certaines filières qui s'y développent, telles que les énergies marines, il y a le transport maritime, il y a l'enjeu de nos ports. Et ce que je trouve vraiment une très bonne nouvelle avec l'installation du ministre de la mer, c'est justement qu'on puisse avoir quelqu'un à la fois qui porte l'ambition maritime de notre pays, mais aussi à la fois quelqu'un qui s'attache à travailler sur la transversalité et finalement l'accompagnement des divers usages sur la mer, tenant compte aussi, bien évidemment, de l'enjeu environnemental que représente cet espace. Donc, c'est beaucoup plus large que la pêche. C'est vraiment le côté de pouvoir vraiment traiter à la fois cette ambition maritime de notre pays et à la fois aussi d'avoir une personne en charge de la transversalité des usages et des enjeux.
Annick Girardin, qui a été récemment interpellée sur l'impact de la pêche sur les espèces protégées. Il y a notamment une aggravation du phénomène des échouages de dauphins liés à la pêche. Vous avez des recommandations dans ce domaine, Alain Bizot, parce que donc la ministre a promis davantage de contrôle en 2021, notamment pour faire respecter l'obligation par les pêcheurs de déclarer les captures accessoires. Mais comment est-ce qu'on peut mieux protéger les dauphins et plus généralement les espèces protégées?
Je pense que la protection, ça commence par l'observation, c'est-à-dire le diagnostic. Et nous, on travaille évidemment en lien avec la direction des pêches pour estimer, ou en tout cas essayer de quantifier les captures accidentelles. Donc il y a des observateurs qui vont à bord des navires de pêche. C'est un programme national qui couvre l'ensemble des flottilles, l'ensemble des métiers. Et évidemment, on peut pas mettre un observateur sur chaque bateau, ça serait trop compliqué. Et du coup, les extrapolations sont assez incertaines compte tenu du faible taux d'échantillons. Donc ça, c'est une chose. Il y a l'observation pour poser un diagnostic, savoir exactement ce que l'on veut obtenir comme résultat. Est-ce qu'on n'en veut pas du tout de capture accidentelle ou est-ce que l'on peut considérer qu'il y a un seuil tolérable qui ne remet pas en cause la pérennité de l'espèce? C'est aussi un problème de politique. Les textes européens sont pas toujours très clairs sur le sujet. Et puis le troisième volet, c'est essayer effectivement d'éviter au maximum ces interactions entre les espèces protégées et les navires de pêche. Donc peut-être en essayant d'améliorer les techniques de pêche. Donc on a travaillé beaucoup et on continue à travailler sur des histoires de sélectivité, donc essayer d'éviter de capturer les cétacés notamment. Des répulsifs acoustiques, c'est-à-dire qu'on met des petits sonars sur les engins de pêche pour faire fuir les dauphins, pour éviter qu'ils ne se prennent dans les filets. C'est pas très facile à mettre en œuvre, donc on travaille là-dessus. Et puis peut-être aussi essayer de regarder s'il n'y a pas des zones particulières dans lesquelles les cétacés, enfin des espèces accidentelles, auraient tendance à se rassembler pour éviter qu'il y ait trop d'interactions avec la pêche, donc faire éloigner les pêcheurs de ces zones où il y a trop d'abondance de ces espèces-là.
Je voudrais vraiment dire que pêcher malencontreusement des cétacés, pêcher malheureusement des dauphins, c'est quelque chose qui est un crève-cœur pour les pêcheurs aussi. Monsieur Bizot a parlé de toutes les démarches qui étaient engagées. Moi, je veux souligner le fait que toutes ces démarches engagées d'une meilleure observation, d'essayer de mettre en place des répulsifs, donc des pingers sur les bateaux, c'est des démarches sur lesquelles les pêcheurs se sont fortement investis parce que pour eux aussi, c'est un crève-cœur quand ils doivent remonter dans leur filet de manière malencontreuse un dauphin. Donc, je voudrais vraiment dire que c'est aussi des démarches qui sont bien évidemment accompagnées et fortement poussées par les scientifiques et on a besoin d'eux. Mais c'est aussi des démarches sur lesquelles les pêcheurs sont très proactifs pour essayer de trouver des solutions à ces captures accidentelles.
Merci Claire Hugues, merci Alain Bizot. Pêche artisanale, se structurer pour durer. Le grand reportage de cette semaine était signé Anne-Laure Chouin, réalisation Annie Brault, avec Clément Daté à la technique. Merci bien sûr à l'équipe de la documentation de Radio France. Et vous pouvez réécouter et podcaster cette émission de la rédaction sur franceculture.fr.